Pendant mon temps libre, j'aime beaucoup écrire. Ça me permet de vider la tête des idées qui viennent sans cesse. Et au fur et à mesure des lignes que j'écris et de mon ambition qui grandit, il y a un projet que je rêve de faire, créer un univers suffisamment grand pour m'y exprimer et l'étendre petit à petit en collaboration avec d'autres auteurs et autrices. Cette idée, je ne suis pas la première personne à l'avoir eue. Loin de là. Puisqu'un bon nombre d'œuvres ont droit à un univers partagé entre plusieurs personnes qui contribuent, et très souvent cet univers se décline sur plusieurs supports, poursuivant l'aventure de façon différente. Alors, comment ça marche et pourquoi développer un univers comme ça? C'est ce que l'on va voir aujourd'hui. Bonsoir, je suis Céleste du Guichet Choral, et aujourd'hui je vais vous parler de création d'univers et de transmédia. Et oui, je viens d'utiliser le terme de transmédia. Qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est de prendre un film, un livre ou toute œuvre connue créée en univers, puis de créer une histoire, un scénario ou un script de jeu vidéo dans le même univers, mais sur un support différent. Par exemple, si l'œuvre de base est un film, mettons Pirates des Caraïbes totalement au hasard, l'œuvre transmédia sera le livre, le jeu vidéo et ou tout autre média dans le même univers mais racontant une histoire différente. Par exemple, un jeu vidéo se passant dans le même univers que les films Pirates des Caraïbes, mais ne racontant pas la même histoire. Cela correspond aussi à toute œuvre de fiction se servant d'un autre support que celui de base pour proposer une expérience immersive aux spectateurs. Par exemple, utiliser un site internet ou une application pour apporter des informations en plus sur l'univers d'un film, d'un livre, d'une série, etc. Je vais prendre des exemples pour vous expliquer un peu mieux. Tout d'abord, sachez que le concept n'est pas récent. Dans l'Antiquité, par exemple, l'écriture des mythes se faisait dans des livres, mais aussi en pièces de théâtre, sur des poteries, en peinture, en sculpture, etc. L'une des toutes premières utilisations de l'univers partagé dans l'époque moderne est celle de Sherlock Holmes, qui, déjà au début du 19e, avait le droit à des nouvelles et romans écrites par d'autres qu'Arthur Conan Doyle. Mais c'est bien plus tard que le genre a explosé avec deux grosses franchises, Star Wars et Matrix. Écrit et réalisé par les seuls Lily et Lana Wachowski, Matrix raconte l'histoire de Neo, hacker qui apprend que le monde dans lequel il vit n'est qu'une simulation et qu'il doit s'en échapper pour mener la rébellion contre les machines dans le but de détruire la fameuse Matrice en tant qu'élu de la prophétie. Le film a été un véritable carton, lançant la carrière des Wachowski et leur permettant de réaliser deux autres films ainsi qu'une série de courts-métrages d'animation appelée Animatrix et un jeu vidéo Enter the Matrix. Ce dernier constitue une sorte d'introduction au troisième volet de la saga, car il dépeint des événements se déroulant un peu avant le début du film. Quant aux courts-métrages, certains avaient un lien direct avec l'histoire, d'autres se contentaient juste d'exploiter l'univers. Et ce qu'il y a de bien, c'est que même s'il y avait parfois des connexions avec le film, dans le jeu vidéo ou les courts-métrages, le spectateur de la trilogie n'était pas obligé de jouer à Enter the Matrix ou de voir Animatrix pour comprendre la troisième partie de la saga, et inversement. Pour Star Wars, c'est un peu plus vaste. Imaginée par George Lucas, la saga, qui ne devait être qu'un seul film à la base, s'étale aujourd'hui sur 9 films, qu'on appelle Enéalogie. Cette série cinématographique raconte l'histoire du petit Anakin qui verra la chute de la République et l'avènement de l'Empire Galactique, sombrant peu à peu dans les ténèbres et devenant le visage de cet empire, le terrifiant Dark Vador. La deuxième trilogie se déroule 19 ans plus tard et se concentre sur la chute de l'Empire, causée par un groupe de rebelles, et la troisième nous compte l'héritage des événements des trois films précédents, en suivant une nouvelle génération de héros. La numérotation est un peu bizarre, car George Lucas a voulu faire la seconde trilogie en premier, on l'appelle donc trilogie originale. Il a ensuite fait la première trilogie, à savoir la prélogie, se déroulant avant la trilogie originale, chronologiquement. Entre le développement de la trilogie originale et la prélogie, il y a eu un écart de 16 ans, permettant à toute une génération d'auteurs et d'autrices en herbe de développer le vaste univers de la saga se déroulant dans une galaxie lointaine, très lointaine. Là où Enter the Matrix et Animatrix étaient supervisés par les Wachowski, l'univers étendu de Star Wars en livre n'était pas tout le temps chapeauté par George Lucas, ce qui a donné un grand nombre d'histoires n'appartenant pas à la chronologie officielle. Ce qui n'est pas le cas de la série d'animation Clone Wars, à ne pas confondre avec l'autre série d'animation The Clone Wars, qui arrivera un peu plus tard. Cette série Clone Wars donc raconte les événements de la guerre des clones entre l'épisode 2 sorti en 2002 et l'épisode 3. La série se déroula entre 2003 et 2005, elle s'acheva pour la sortie du troisième film, ce qui a permis aux spectateurs et les spectatrices de suivre le conflit pratiquement en temps réel, la série animée se terminant quelques instants avant que l'épisode 3 ne commence. Cependant, depuis le rachat de Star Wars par Disney, cette série animée, les livres ainsi que les jeux vidéo sortis avant 2014 ne font plus partie du canon officiel. Canon, pour la faire courte, vient de canon biblique, désignant tous les textes considérés comme sacrés, ayant conduit à l'établissement de la Bible telle que nous la connaissons. Aujourd'hui, on utilise le terme de canon pour désigner l'ensemble des textes, des sons et des médias faisant partie intégrante de l'univers d'une œuvre. La série télévisée anglaise Doctor Who, par exemple, a pour canon une série audio, entre autres, des aventures de son personnage principal, le Docteur, voyageant à travers le temps et l'espace. Parfois, cette expérience transmédiatique peut prendre une autre forme. Par exemple, la série Lost de J.J. Abrams et Damon Lindelof, racontant des passagers d'un avion s'étant écrasés sur une île tropicale, qui est le théâtre d'événements étranges. Voyant le nombre de gens intéressés par la série et voulant combler l'attente entre deux saisons, la chaîne ABC a lancé un site internet, un forum, des podcasts des producteurs de la série et un jeu interactif en ligne intitulé The Lost Experience, permettant aux spectateurs de la série d'élargir leur connaissance de l'univers Lost en attendant la suite. Enfin, j'aimerais parler d'un univers français, Le Visiteur du Futur, créé par François Descraques. Le Visiteur du Futur est à la base une série de vidéos sur internet appelée websérie, mettant en scène Raph, faisant la rencontre d'un mystérieux voyageur du temps qui veut empêcher la fin du monde. Commençant comme une série de sketchs, la série gagne rapidement en moyens et en scénario pour devenir un monument de la fiction de l'internet français. Et donc, en plus de la websérie, sont également sortis 2 BD, un roman et 3 mangas qui font partie du canon officiel de la série. Mais alors pourquoi faire ça? Pourquoi faire du transmédia? Eh bien, ça permet de développer un univers, de faire prospérer une création. Pour l'auteur ou l'autrice originale, c'est l'occasion de voir un autre point de vue sur sa création. Ça permet d'intégrer d'autres personnes dans son monde et de partager un univers avec d'autres créateurs et créatrices. Pardon. Et puis, grâce à ça, on peut voir les fans et les adeptes du milieu grandir. Plus de personnes partagent la passion de cette histoire et de l'environnement, et parmi ces fans, certains ou certaines se mettront à écrire des histoires dans le même monde. C'est un cercle sans fin qui peut mener à un ensemble formidable, créatif et prolifique. Le point fort d'un univers étendu transmédia est d'attirer des personnes qui ne seraient pas enthousiastes à l'idée de lire un livre, regarder un film ou jouer à un jeu vidéo, mais qui veulent tout de même découvrir l'univers. Cela fédère ainsi une communauté plus grande, des personnes qui peuvent échanger autour de thèmes en commun, et c'est beau l'échange quand même. Cependant, il faut faire attention quand même à certaines choses. Si vous voulez un jour vous lancer dans l'écriture d'une histoire ou d'un scénario pour un court-métrage se passant dans votre univers préféré, tout d'abord, connaître un maximum le monde pour éviter les incohérences, d'où l'intérêt de prendre une période plus éloignée, comme a su faire le jeu vidéo Star Wars Knights of the Old Republic, qui se passe 4 siècles avant la saga cinématographique. Il faut prendre des libertés, mais pas trop, il faut surtout pas oublier qu'il y a des choses en place, déjà, avec un thème bien précis. Il faut se servir de ces thèmes pour déjà toucher plus facilement les lecteurs ou les spectateurs, mais aussi garder un fil directeur entre les différentes œuvres de l'univers, ce que ne fait pas forcément l'univers cinématographique Marvel ou MCU, en n'ayant pas repris dans tous les films les thèmes musicaux créés pour les personnages. Enfin, et le plus important, il ne faut pas trop se reposer sur le transmédia et assumer que tout le monde va suivre l'histoire sur la multitude de supports. Le transmédia est important, certes, pour étendre l'univers. Mais les lecteurs d'un livre ne vont pas forcément lire un manga du même univers ou jouer à un jeu vidéo qui poursuit une histoire. Il faut toujours veiller à réintroduire un personnage utilisé sur un autre support, ce qu'a pas fait le premier film tiré de la websérie Noob, utilisant un personnage tiré d'une bande dessinée du même univers. Et voilà qui conclut cette chronique. Je sais qu'elle ne parlait pas tant que ça de cinéma, mais le transmédia est un élément important dans la construction d'un univers. Vous pourrez remarquer que j'ai utilisé beaucoup trop de fois le mot univers dans cette chronique. Et il y a très souvent des films dans ce processus, de transmédia, et beaucoup d'univers qui s'arrangent autour d'un film. Donc, je suis pas tant éloigné du sujet que ça. Je voudrais vous laisser, avant de vous quitter, avec une chanson de Florent Dorin, qui interprétait le rôle du visiteur dans la web-série Le Visiteur du Futur, que j'évoquais tout à l'heure. Musique apparaissant aussi dans la série, et qui s'intitule Inside My Heart. Sur ce, voyez des films, amusez-vous avec vos univers préférés, portez-vous bien. Salut!
From me too long, and you've grown without me too strong. So I might ask, am I useful now? After all that time has passed, as I missed that smile. 'Cause I can tell by the sound of your voice, you got rid of that spell that let you no choice. And in the end, that is quite a good thing. If you're still loving me, it's on your own free will. 'Cause I know you, but still you're shy. I ask myself sometimes why my words get no reply. But you are the one for whom I'd burn all the words that come to my mind. And for you I would only say love. But there are a thousand ways to love. There are a thousand ways to love. You are the heart beating inside my heart. You are the heart beating inside. You are the heart beating inside my heart. You are the heart. To love. There are a thousand ways to love. You are the heart beating inside my heart. You are the heart beating inside. You are the heart beating inside my heart. You are the heart beating inside. You are the heart beating inside my heart. You are the heart beating inside. You are the heart beating inside my heart. You are the heart beating inside. You are the heart beating inside my heart. You are the heart. You are the heart beating inside my heart. You are the heart beating inside.